to the Phoenix Suns. You fought hard. You had a tremendous season. Congratulations. And the Milwaukee Bucks. To the city of Milwaukee. It's been 50 years. That makes it all that much sweeter. To Mark Lazary, to Wes Edens, to Jamie Dimon, to Mike Fascitelli, to GM John Horst. Where's Coach? Mike Budenholzer. What a tremendous job. And ladies and gentlemen, the 2021 NBA champions, your Milwaukee Bucks.
Alors, jamais une équipe n'est revenue d'un 3-0 en finale. En revanche, il y a quand même eu quelques remontées. Les Bucks, par exemple, Félix.
Il y a eu 5 équipes exactement dans l'histoire qui ont été championnes NBA après avoir été menées 2-0. Et les Bucks sont les derniers en date dans une série qu'on a un peu trop vite oubliée à mon goût. C'était en 2021 contre les Suns. Donc, petite présentation déjà des forces en présence. D'un côté, tu avais Phoenix qui arrivait avec 51 victoires en saison régulière. C'était la deuxième meilleure équipe de la Ligue. On avait évidemment Chris Paul, 16 ans de carrière, jamais en finale. Donc c'était le moment ou jamais pour le point guard. À ses côtés, tu avais évidemment Devin Booker, DeAndre Ayton, Mikal Bridges, là qu'on retrouve avec New York, Jake Roder. Bref, c'était une équipe qui était passée de la belle surprise de la bulle un an plus tôt à candidate au titre. À Milwaukee, tu avais évidemment Giannis Antetokounmpo, double MVP en titre, sauf qu'il arrive en finale avec un genou qui est explosé. Il a été victime d'une hyperextension lors des playoffs qui l'a fait manquer 2 matchs en finale de conf contre Atlanta. Donc il y a beaucoup de questions qui se posent autour de l'état de Giannis Antetokounmpo. Autour de lui, tu as une équipe constituée de Middleton, Jrue Holiday, Brook Lopez, qui était ses lieutenants, ou encore le bon vieux Bobby Portis en Factor
X. Axel Toupane aussi.
Hein ? Axel Toupane était là, bien sûr. Donc ça, c'était le casting. Maintenant, place à cette série qui va devenir historique. Pourtant, c'était très mal parti pour les Bucks et pour le suspense. Game 1 à Phoenix, Chris Paul, 32 points, 9 passes pour ses débuts en finale. Les Suns s'imposent 118-105. Giannis est là, mais il gère un peu son genou. Les Suns prennent le match sans forcer. Match 2, rebelote, toujours à Phoenix. Paul Booker, Ayton combinent 81 points à eux 3. Giannis répond quand même avec 42 points malgré un genou qui lui fait toujours mal. Mais ça ne suffit pas. Phoenix mène 2-0 après les deux premiers matchs à domicile. À l'époque, tout le monde, tous les médias, tout le monde dit que c'est déjà plié. Les Suns vont être champions quand on écoute les observateurs. Giannis est blessé et sans le grec à 100%, les Bucks sont finis. Voilà ce qu'on entend un petit peu partout après ce 2-0. Donc on débarque à Milwaukee dans le match 3. Et ça, c'est là, il y a une toute autre ambiance. Giannis explose les compteurs. 41 points, 13 rebonds, score final 120-100, une correction. Holiday Middleton qui était transparent sur les deux premiers matchs se réveille et combine 39 points à eux deux à 50% au tir, pendant que les stars des Suns galèrent un petit peu plus de leur côté. On retrouve Chris Paul un peu plus transparent. 2-1, la série est relancée.
L'histoire de sa vie. Hein.
Ouais, joli bruitage, Pierrot.
Non, je suis dépité pour le pauvre Chris Paul.
Match 4, et là on arrive dans le match,
quand même.
Le match qui change beaucoup de choses, et un match qui est historique, le match 4, un match complètement dingue, à 1 minute 28 de la fin, Middleton, qui était à 40 points sur ce match, donne l'avantage aux Bucks, 101-99, balle pour les Suns, Booker rentre dans la raquette, envoie un lob vers Ayton qui se retrouve seul sous le cercle, personne entre Ayton et le panier, et voilà la suite.
Booker with Tucker on him. Throws it up for Ayton. Shot blocked by Antetokounmpo. What a block from Giannis. Sensational block shot. This is one of the great recovery plays you'll ever see. The lob Booker to Ayton. We've seen it many times. And that reaction and block is special.
Alors qu'il était en train de défendre sur Booker qui était à la passe de ce alley-oop, Giannis se retourne à une vitesse surréaliste et arrive à contrer Ayton. C'est inhumain car là vraiment t'as un mec qui est sur la même action, arrive à défendre sur le passeur, à se retourner et à contrer le dessinateur du alley-oop. D'ailleurs après le match, Giannis il l'a dit lui-même, il a dit: je pensais qu'il allait m'écraser le dunk sur la tête, pour être honnête, mais dans ces moments-là tu fais tout ce qui est physiquement possible pour gagner. Et ça a fonctionné parce qu'au-delà du côté spectaculaire, ce contre il est surtout ultra clutch parce qu'il permet aux Bucks de s'imposer. Égalité de partout, la série repart de zéro et tout vient de basculer. Match 5, victoire des Bucks qui passent à 3-2, notamment grâce à Jrue Holiday qui fait une interception à 15 secondes de la fin alors que les Suns avaient la balle de match. Jrue Holiday part en contre-attaque, balance un lob pour Giannis qui conclut un alley-oop. Donc Milwaukee gagne de 4 points et a une balle de match à domicile donc, parce qu'il mène 3-2. Match 6, match qui fait rentrer Giannis dans l'histoire, 50 points, 14 rebonds, 5 contre. 17 sur 19 au lancer franc, sachant qu'on se moquait pas mal de lui pour son adresse au lancer. Yanis est tout simplement surréaliste. Premier joueur de l'histoire à scorer au moins 40 points, prendre 10 rebonds et claquer 5 comptes dans un match des finales. 50 points dans un match pour clôturer une finale NBA, c'est aussi un record égalé dans toute l'histoire de la Ligue. Donc les Bucks deviennent la cinquième équipe de l'histoire à renverser un 2-0 en finale. Tout ça grâce à Yanis qu'on pensait hors course après sa blessure au genou quelques semaines plus tôt et qui nous sort des perfs all-time et des highlights légendaires. Ça le fait rentrer, lui, du coup, dans la légende. Donc voilà, c'est une série historique. Et je voulais qu'on en parle parce que c'était il y a que.
Oh, tu fais un podcast dans le podcast. Non,
mais heureusement qu'il n'y a pas de match 7 parce que sinon il va rater son bus, Fred.
Ben, je voulais qu'on mette un peu de respect sur Yanis parce que c'était qu'il y a 5 ans. Et je trouve qu'on a un peu oublié les
finales. Je suis
tout à fait d'accord avec toi. Yanis, il manque dans ces finales-là. Il faudrait qu'il retrouve une grosse équipe, soit à Milwaukee, soit ailleurs.
Il y a beaucoup de monde qui manque.
Oui, mais lui particulièrement, je trouve. Parce que bon, KD, on l'a beaucoup vu, c'est pas grave, tu vois.
C'est fou le changement de perception que tu as eu, Yanis Antetokounmpo.
Ouais, mais ça, je l'ai dit un jour. Hein. Je suis devenu yanisophile alors que je supportais pas ce jeu physique. Mais bon, il n'y a pas que du physique quand même. Non?
Oui,
non, pas que du physique.
Il y a quand même,
quelque chose.
Non, ouais. Belle finition.
Moi, ce que j'adore chez lui, c'est aussi son mental de gars.
Voilà, ouais, c'est un mec très attachant. Très attachant. Par contre, un échange, je ne sais pas si ça suffit en termes de masse salariale, mais un échange Yanis et Ryan Rollins contre Castle, Fox et Johnson.
Non,
ça suffit ou pas?
Non, mais Castle, tu ne peux pas l'envoyer.
Non. Si, il faut.
Non,
bah,
non.
Sinon, tu ne peux pas
convenir Yanis. T'envoies Fox qu'elle donne. Et ça marche au niveau des salaires. Et
non,
des pics de draft.
Oui, mais jamais ils te disent oui.
Des pics de draft.
C'est bien, ça fait fantasmer, c'est content.
C'est pas possible.
C'est content. Mais après, déjà, en termes de spacing, Yanis, Victor et Banyama.
Oui, je ne suis pas sûr que ça sera hyper
chouette. Tu veux que Victor joue près du cercle? Joue près du cercle.
Bah, c'est pas grave, chacun son tour.
Non, il faut un poste 4 qui stretch un peu pour côté des.
Alors, tant pis pour vous, je l'envoie à Golden State.
Non, à Miami.
De quelle remontée vas-tu nous parler, Fred?
Il n'y a pas le temps.
Alors, Miami-Dallas 2006. Dallas mène 2-0 après deux matchs. Mmh. Mais c'était la formule 2-3-2.
Pourquoi tu as choisi ça?
Mais parce que j'aimais bien.
Donc,
2-3-2. Tu sais pourquoi 2-3-2? Parce qu'à l'époque, c'était deux matchs chez le mieux classé, trois chez l'autre. Et deux.
C'était pas mal, d'ailleurs.
C'était horrible.
Non, c'est pas mal, parce que si tu gagnes l'avantage du terrain, t'es vraiment bien.
Oui, mais t'es bien quand même. Parce que même si tu perds les deux premiers, t'as trois matchs chez toi après. Donc ça veut dire que tu mets une pression énorme si tu reviens. Bon, peu importe. C'est exactement ce qui s'est passé. Match 1, 90-80. Match facile pour Dallas. Match 2, 99-85. Chaque ne met que 5 points. C'est catastrophique. Et tu dis, ben voilà, Dallas va forcément gagner les matchs assez facilement. Tout va bien se passer. Sauf qu'au match 3, ils sont à 6 minutes 34 de la fin. Ils ont 13 points d'avance, les joueurs de Dallas. Malgré ça, ils vont perdre avec un Dwayne Wade à 42 points, 13 rebonds. Ce match ça finira à 98-96. Match 4, Dirk Nowitzki qui est pas très bien, 16 points,
il va pas citer son nom une fois,
à 2 sur 14 au tir, 98-74. On se retrouve à 2-2, match 5, ton match important évidemment. On se retrouve sur une fin de match compliquée après prolongation. Dwayne Wade va avoir 25 lancers francs sur l'ensemble du match.
Cheaté cette finale, mec.
21 sur 25. Et justement, dernière action qui va se terminer au bout du suspense avec deux lancers francs de Dwayne Wade qui va permettre à son équipe de s'imposer 101-100. Et on va finir par un 95-92 sur le dernier match. Et finalement, ce sera Miami qui sera imposé assez logiquement, grâce pour moi à cette formule qui était compliquée. Et on se rappellera de beaucoup de choses, notamment que Dwayne Wade sera à quasiment 39 points de moyenne sur les 4 dernières victoires, que Dwayne Wade aura eu 25 lancers francs sur le match 5.
Scandaleux. Arbitrage scandaleux.
Et qu'à 6 minutes 34 de la fin du match 3, Dallas menait encore de 13 points.
Oui, mais Dwayne Wade, fantastique player.
Fantastique. Ouais,
c'est bien de le rappeler de temps en temps.
Voilà.
N'en déplaise à Steve, parce que dire qu'on le dit tout le temps que c'était un fantastique player.
Oui, mais là, c'est Miami qui gagne, plus l'arbitre. Ça fait beaucoup pour Dallas.
Non, Miami, c'est très très fort.
Avec chaque en gros patapouf. Hein.
Ouais, mais qui, sur le match 2, ne met que 5 points, qui passe complètement à travers, et finalement, il s'impose.
À toi, Steve.
T'as vu, je l'ai fait beaucoup plus court que.
Parfait, c'est
on attend,
parfait.
On attend,
on attend,
même
on
pour
attend,
la
attend ouais.
Bah, écoute, moi, c'est la remontada la plus historique et la plus connue, celle de 2016 entre les Warriors et les Cavs, parce que les Cavs ont fait quelque chose qui n'avait jamais été fait. On rappelle que cette saison-là, les Warriors battent le record des Bulls en saison régulière avec 73 victoires pour 9 défaites. Une saison régulière, les Warriors n'ont jamais perdu 2 matchs de suite, et c'est les Warriors sans KD. Hein. C'est la version originale avec Steph Curry, avec Klay Thompson, avec Harrison Barnes, Andrew Bogut. et André Iguodala. Il débarque en finale NBA en ayant souffert en finale de conf face à OKC où il gagne 4-3. Et puis après, KD rejoindra les Warriors, on connaît l'histoire. Les Cavs, eux, ils ont 57 matchs gagnés en saison régulière, numéro 1 à l'Est. Et eux, ils se sont frisés les moustaches en playoff. 4-0 premier tour contre les Pistons, 4-0 contre les Hawks et 4-2 contre Toronto. Les deux premiers matchs à Golden State, c'est deux blowouts, deux roosts pour les Warriors, 104-89, 110-77 avec
110-77,
ouais, avec notamment cher. 28 points de Draymond Green au match 2, suffisamment rare pour être, oui, pour être souligné. Ensuite ça part pour de l'Ohio, match 3, large victoire aussi, donc trois premiers matchs, trois blowouts, 120-90. Les Warriors gagnent le match 4 à Cleveland avec 38 points de Steph Curry, et là la fameuse stat sort, jamais une équipe n'a été championne NBA en étant menée 3-1. Match 5 à Golden State, sur ce match 5 on va peut-être assister à la plus grande performance en playoff de la part d'un binôme de la même équipe. Kyrie et LeBron vont cumuler 82 points, 41 points chacun sur les 112 de leur équipe pour prendre un deuxième match et revenir à Cleveland à 3-2. Match 6, LeBron, lui, va cumuler 82 points sur deux matchs consécutifs parce qu'il remet 41 points sur le match 6 en plus de ses 11 passes et des 8 rebonds. Ça fait 3 partout. On repart à Golden State pour un match 7 avec un money time en apnée, le seul vrai money time de cette série, et surtout un très petit score. Steph Curry et Klay Thompson passent totalement au travers de ce match 7. On a peut-être tendance à oublier, mais ils sont à 12 sur 36 au tir, dont 6 sur 24 à 3 points. Le meilleur joueur des Warriors, c'est qui? C'est Draymond Green, 32 points, 15 rebonds, 9 passes, Draymond Green, sur le match 7. Et on se rappelle de ces dernières minutes complètement dingues où il n'y a personne qui marque, 89 partout, tir loupé de Kyrie, contre-attaque, 2 contre 1, la passe de Curry pour Iguodala, le contre iconique de LeBron James. Et ensuite, LeBron James, qui comme à son habitude, ne veut pas prendre le tir de la gagne, donne la balle à Kyrie Irving, qui fait une isolation sur Steph Curry. Le sidestep, step back de Kyrie Irving, qui met le tir à 3 points, filoche, et les Cavs vont devenir champion NBA dans la remontée la plus incroyable de l'histoire de l'NBA, Pierrot.
C'est le plus gros accomplissement de LeBron James.
Oui.
Oui.
Et c'est ce qu'il fait passer dans une autre dimension, ce qui fait gagner les cartes, ça beaucoup de la vie. Moi avant j'étais un LeBron hater et à partir de ce moment,
ouais, ça a pas changé. Bravo,
bravo. Non, mais à partir de ce moment-là, t'es obligé de le respecter quand il fait ça à partir de cette saison.
Respecter Kyrie.
Allez, on passe au quiz.